Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute du 211e numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous vous avions laissé à la fin de la précédente émission en vous annonçant un très fourni agenda de concerts à venir. Plusieurs ont eu lieu et nous allons bien sûr en parler dans quelques instants. D'autres s'annoncent encore la semaine prochaine, tout aussi alléchant comme convenu. Nous allons également revenir sur les deux distributions de La Bohème à l'Opéra National du Capitole, avec le seul d'entre nous à avoir vu et entendu sur scène l'une et l'autre. J'ai nommé Robert Pénavert, notre grand spécialiste de l'art lyrique, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Robert est en compagnie de son alter ego, Serge Chosy, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Le duo chic de choc est donc reconstitué et tout est en place pour aborder notre première rubrique, Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour Robert, bonjour Serge, ravi de vous retrouver tous les deux à mes côtés. Nous sommes donc déjà revenus la semaine passée sur la production de La Bohème, récemment donnée à l'Opéra National du Capitole, et notamment sur la mise en scène de Barbe et Doucet. Mais j'avais annoncé que nous y reviendrions une nouvelle fois lors de l'émission suivante, avec Robert Pénavert, qui lui a assisté à des représentations du célèbre opéra de Puccini dans les distributions, les deux distributions présentées au Capitole. Il y avait beaucoup de prises de rôle dans l'une et l'autre. Y en a-t-il qui vous ont particulièrement marqué, Robert ?
Oui, alors je voudrais dire que cette bohème est le reflet parfait de ce qui se passe au Capitole depuis quelques années, c'est-à-dire l'ADN du Capitole, c'est cette bohème, je veux dire, pas l'œuvre, bien évidemment, mais d'engager de jeunes chanteurs et de leur assurer les meilleures conditions possibles pour des prises de rôle, ce que vous venez de dire, exactement. Et quand je dis des jeunes interprètes, la moyenne d'âge était de 30 ans, donc le plus âgé avait 35 ans, et le chef d'orchestre 31 ans. Alors, puisqu'on parle du chef d'orchestre, on va poursuivre. C'est un maestro italien, Lorenzo Passerini. J'ai assisté à la première et à la dernière. Alors évidemment, il s'est passé des choses entre-temps. Il y a des choses qui s'ajustent. Il y a
8 représentations en tout.
Voilà, qui ont réuni, générale incluse, 10 000 personnes. Ce qui est quand même...
Un grand succès public, une fois de plus.
Un gros succès public, comme j'ai l'impression tout ce qui se passe au Théâtre du Capitole. Avec Serge, nous étions également à l'Oratorio de Noël, qui est pourtant pas quelque chose de facile. Hein, mais en fait, c'était plein jusqu'au dernier rang de l'amphithéâtre. Voilà. Bon, ça fait plaisir.
Il y a
deux représentations combles. Donc voilà, maintenant, il ne faut pas nous raconter d'histoire. Les gens ont envie, le public a envie de spectacles vivants. Et pourquoi pas de musique classique. Voilà, et nous y sommes en plein temps. Revenons à cette bohème, revenons à ce chef d'orchestre. En définitive, il s'est quand même un peu, entre la première et la dernière, il s'est un peu ajusté parce que par rapport au plateau vocal qu'il avait tendance un peu à dominer. En fait, la dernière a été une illustration de ce qu'il fait avec une partition lyrique. Il l'aborde avant tout comme une partition symphonique. Alors évidemment, si on fait le parallèle avec un célèbre chef d'orchestre, Karajan pour ne pas le citer, qui avait également cette habitude. Lui, il abordait les partitions non pas de manière lyrique, mais de manière symphonique. Alors, ce qui veut dire, au travers de cet espace entre la première représentation et la dernière, c'est que autant à la première représentation, comme je disais, je ne dis pas qu'il ne faisait pas très attention au plateau, loin s'en faut, parce qu'il était vraiment très attentif pour les départs, et c'est normal. Tous ces jeunes qui étaient sur scène étaient accrochés à sa baguette pour les départs, pour les tempi, enfin, etc., etc. Il les couvait littéralement, mais en même temps, l'orchestre était parfois en ébullition tout de même. À la dernière, nous nous sommes aperçus d'autre chose. En fait, il leur met un tapis vraiment musical sous leur voix et il ne les couvrait plus du tout, du tout. Ce qui n'empêchait pas de faire jaillir l'orchestre dans les moments nécessaires. En fait, il avait un grand ambitus, si l'on peut dire, dans sa dynamique. Et de ce fait, ça ajoutait au drame qui est en train de se jouer sur scène. Voilà. Donc, Lorenzo Passerini, je ne sais pas si on le réentendra à Toulouse. Bon, mais il est jeune, comme je disais, 31 ans. Et on espère bien, l'orchestre l'a applaudi le soir de la dernière, mais vivement. Oui. Mais vivement et ostensiblement. Voilà. Venons-en au chanteur. Alors, si vous voulez bien, je ne vais pas faire la comparaison entre les deux distributions. Je vais vous dire d'abord, pour moi, les découvertes. Parce qu'il y en avait. Alors, pour moi, la première découverte, c'est un jeune bariton russe qui a 29 ans et qui vient au Capitole, non pas la première fois, il était déjà venu pour vous savez, ce festival d'été qui a eu lieu les nuits d'été.
Il y a 2 ans.
C'est ça. Mais là, il venait pour la première fois vraiment dans un rôle Marcello qu'il abordait. Donc, c'est un pur produit de l'Académie de l'Opéra de Paris. Et c'est absolument somptueux. C'est bon, moi, à mon avis, il ne va pas rester à Marcello.
Son nom, il s'appelle
Mikhail Timoshenko. Et à mon avis, il ne va pas rester très longtemps sur des rôles comme Marcello. Je pense que les premiers Verdi abordables pour lui, je parle de Germont, même si c'était un rôle un peu bon comme ça, mais je pense plutôt à Posa, dans les 3 ou 4 ans à venir, il abordera, c'est quasiment sûr. Voilà. Donc, c'est une voix magnifique, c'est un personnage sur scène, complètement magnétique, qui a une aura. Quand il est sur scène, on voit que lui, voilà. Et c'est inné, ça ne se travaille pas. Et donc, il a un timbre superbe, il a une voix très longue, il a un très beau phrasé, la voix très homogène, le grave, le médium, l'aigu, tout sonne et est projeté parfaitement. Et il est très émouvant sur scène. En plus, voilà, son duo du troisième acte, de la troisième partie du moins, avec Rodolphe, aurait fait pleurer des pierres, vraiment. Donc pour moi, c'est la grande découverte, mais à jeu égal, avec un ténor arménien qui s'appelle Hipparit Avetisian, qui lui venait vraiment pour la première fois et qui nous a fait un Rodolphe, mais vraiment stupéfiant. Son Rodolphe, il peut le présenter sur les plus grandes scènes du monde. Serge, tu l'as entendu,
oui, comme moi. Absolument, oui. Impressionnant, impressionnant. Très beau.
Ouais, c'est très beau, un timbre solaire. Mais vraiment, il a tout, c'est un... Alors pour l'instant, c'est un ténor qui est entre le lyrique et le grand lyrique. Donc comment il va évoluer, lui aussi est jeune, évidemment. Hein. On verra s'il n'y a pas d'embêtement dans sa carrière, des rôles trop lourds peut-être, trop rapidement. Moi, à mon avis, c'est l'un des ténors sur lequel il faut compter et que tout le monde espère, tous les Toulousains espèrent que Christophe Gristy reviendra le contacter. Et ensuite, à égalité, pour moi, vraiment un coup de cœur. Tiens à le souligner, c'est la Mimi d'Anaïs Constant. Alors là, vraiment, nous la connaissons tous, Anaïs Constant, il n'y a pas de problème.
Mais Capitole, et puis
voilà, un soprano avec des qualités qu'il était impossible de lui nier, bien sûr. Mais pour moi, ça n'avait jamais été un coup de cœur. Et tout d'un coup, dans cette bohème, alors je ne sais pas si c'est dû à cette personnalité un peu timide qui semble être la sienne, mais vraiment, elle nous fait une Mimi. Alors, non seulement qui ferait pleurer des pierres, mais en plus, vocalement, c'est surtout là-dessus que je voudrais appuyer mon propos, Eric, si vous voulez bien, c'est que dès son air d'entrée, c'est Mikamano Mimi, j'ai entendu une autre voix de ce que j'avais en mémoire, avec un médium d'une parfaite projection, d'une très belle rondeur, un aigu qui était parfaitement couvert, qui était moins clair qu'avant. Peut-être qu'il est en train de nous raconter des choses à venir, cet aigu. Le grave était subtilement poitriné, mais très subtilement, ce qui fait que la voix devient très homogène, sans problème de rupture sur les registres. Et un phrasé, mais vraiment un phrasé, des sons filés, le phrasé puccinien est là dans toute sa splendeur. Vraiment, pour moi, c'est le troisième coup de cœur. Le troisième, ça aurait pu être le premier, j'aurais pu commencer, peu importe. Voilà, mes 3 coups de cœur de ces distributions sont là. Et merci à Christophe Gristy d'abord d'avoir eu l'intelligence de programmer aujourd'hui, Anaïs Constant. C'était le moment.
Il l'a toujours défendu, oui. Toujours. Vous vous rappelez, on avait parlé de Dialogue des Carmélites, oui. Où on avait trouvé que sa Blanche de la Force, c'était peut-être pas le rôle qu'il lui fallait. Mais depuis, je pense que c'est quelqu'un, tout simplement, qui travaille beaucoup et qui arrive sans doute à maturité.
Peut-être, mais dans tous les cas, ce que nous entendons, et c'est ce que vous dites. Voilà. Alors,
bravo à elle. Bravo à Christophe Gresti de lui avoir fait confiance.
Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut applaudir, autant l'intelligence professionnelle de Christophe Gresti que le travail d'Anaïs Constant. Voilà. Alors, ensuite, bien évidemment, de distribution dans la Bohème, il y avait voilà, une autre Mimi, Vanina Santoni, que l'on connaît bien aussi, et qui est une très belle Mimi, ne nous trompons pas. Émouvante sur scène également et qui a tout à fait bien rempli son rôle. Alors, je serai un peu plus réservé sur Azerzada, qui est un ténor azerbaïdjanais. Ouais,
L'autre
Rodolphe, oui. Alors là, c'est un ténor, je ne sais pas trop vers quoi il se dirige, parce qu'il a déjà chanté Aïda, et Radamès, il ne faisait pas le messager, donc il faisait Radamès. Il va aborder le Trouvert. Alors le Trouvert, bon, pourquoi pas, hein. Manrico, bien sûr. Hein. Là, est-ce qu'on le trouve au milieu d'un changement de répertoire, je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, alors, ce qui est surprenant, c'est que le meilleur de sa voix, c'est sur le spinto, dans les aigus spinto qu'il a, indiscutablement. Mais après, ce qui lui manque, c'est le phrasé puccinien. C'est-à-dire, il n'en a pas la longueur, il n'en a pas le cantabile. Voilà. Mais alors, paradoxalement, après, il arrive avec, puisque c'était le partenaire d'Anaïs Constant, ils arrivaient tous les deux à faire des demi-teintes, mais qui étaient superbes. Donc c'est un artiste peut-être à suivre dans l'avenir. Bon, alors pour son début au Théâtre du Capitole, moi personnellement, j'ai pas été spécialement emballé. Ensuite, il y avait deux musettes, bien sûr, Marie Perbos, que l'on ne présente plus,
oui.
Surtout dans cette production, mais vous l'avez évoqué, oui. Déjà, ne revenons pas là-dessus. Bon, mais voilà, elle explose complètement, c'est son ADN, elle, ça, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle veut faire à l'avenir, hein. Ce qu'elle aimerait faire, c'est se spécialiser, non pas dans le cabaret, c'est pas, mais dans des spectacles qu'elle se taille sur mesure.
Elle est très comédienne.
Voilà, mais bon. Andrea Soare aussi est très très bien dans l'ordre de musette, qu'elle oriente vraiment avec une voix qui est d'une autre ampleur quand même. Mais c'est pas tout à fait le même organe, c'est de soprano. Et on se souvient de sa Berta d'ailleurs, Andrea Soare, dans le dernier Barbet de Séville. Bon, on sent qu'il y a du potentiel. Alors elle entraîne plutôt vers une gouaille très parisienne et tout. Mais c'est en même temps, je pense que les metteurs en scène souhaitaient ça. Le pendant de Mikhaïl Timoshenko, c'est un bariton français, Jérôme Boutillier.
On l'avait déjà entendu au Capitole.
Qu'on a entendu magnifique dans Yenoufa. Et là aussi, alors c'est un thème, c'est un bariton un peu clair, hein, mais il n'empêche que la voix est quand même très très homogène. Et vraiment aussi, lui est très émouvant. C'était superbe à entendre, son Marcello était magnifique. Ensuite, deux basses pour chanter, évidemment, Colline et sa fameuse défroque, bien sûr. Hein. Heureusement d'ailleurs que Colline a se taire, parce que le pauvre, autrement, il n'aurait pas grand-chose. Mais il est très important, cet air. Très important. C'est, en fait, c'est presque le climax de l'œuvre.
Oui.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir que tous ces bohèmes que l'on voit en train de vivre misérablement et de taper un peu sur les riches, enfin, etc., en fait, dans la suite du roman de Murger, vont devenir des bourgeois parfaitement honorables, etc. Et donc, dans cette bohème, le moment crucial, le moment des adieux à cette vie d'avant, dont la victime sacrificielle aura été Mimi, finalement, hein, c'est le moment de la défroque. C'est un moment dans lequel lui, tout seul, Colline, parle pour tous les autres. Il dit « La vie de Bohème, c'est fini ». Donc c'est un moment très important. Et il faut que le chanteur soit un tragédien à ce moment-là. Et là, nous avons eu Julien Véronèse, que nous connaissons bien, et Guillaume Worms, que personnellement je ne connaissais pas, et qui ont parfaitement tenu leur rôle dans ce moment éminemment pathétique, tragique, et qui est juste la dernière marche avant la mort de Mimi. C'était superbe. Voilà. Ensuite, un mot sur un jeune bariton, Edwin Fardini, qui lui a fait toutes les représentations, qui est un chonard de grande classe, très élégant sur scène. C'est un peu le rôle, hein, qui veut ça par rapport aux autres. Hein. Et puis surtout, ne pas oublier Matteo Perrone. C'est un vieux briscard italien qui a chanté ces deux rôles de Benoît et d'Alcindoro sur les plus grandes scènes de la planète. Et on a eu la chance de l'avoir, malheureusement, en remplacement d'un chanteur français décédé peu de temps auparavant, Jacques Calatayud. Et voilà, et il était là, bon, évidemment, Matteo Perrone, ces deux rôles-là, et voilà, il n'en fait qu'une bouchée.
C'était du velours pour lui.
Et pour nous,
et pour ceux qui écoutent, bien sûr.
Un grand bonheur également, voilà. Et puis il y avait, mais vous l'avez peut-être évoqué, un accordéoniste évidemment, Michel Glasgow, qui était très bien.
Voilà, bah une très belle production, vraiment. Hein. Oui. Serge, on en a parlé la semaine dernière.
Ah oui, très, très, très vivante, très animée, intelligente. Vraiment, le côté scénique aide beaucoup à ces représentations.
Non, encore une belle réussite et un beau succès public, répétons-le, pour l'Opéra National du Capitole. Je l'ai déjà diffusé la semaine dernière, mais pour le plaisir, je vous propose de le réécouter. Voici un extrait de cette belle bohème dans une des distributions que l'on a pu découvrir à l'Opéra National du Capitole lors de cette nouvelle production. Un extrait de La Bohème dans une des distributions présentées à l'Opéra National du Capitole lors de cette nouvelle production de la célèbre œuvre de Giacomo Puccini. Prochain rendez-vous au Capitole, les Noces de Figaro du 20 au 31 janvier. Il y aura 6 représentations du célèbre opéra de Mozart. Mardi dernier à l'église Saint-Jérôme a été donné le 2e concert de la saison 22-23 des Arts Renaissants qui avait programmé l'excellente violoniste Amandine Beyer et le non moins excellent ensemble franco-italien Gli Incogniti. Ce concert était très largement dédié à des concertos d'Antonio Vivaldi avec tout de même au milieu une pièce de son contemporain Tommaso Albinoni. Nous y étions, Serge, dans une église pleine à craquer là aussi, et nous avons bien fait d'y être parce que c'était vraiment un beau concert, malgré le froid, il ne faisait pas chaud du tout.
Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est la remarque qui a été faite par Amandine Beyer elle-même, d'ailleurs, pour annuler la pause qui était prévue entre les deux parties du concert, et je crois qu'elle l'a très bien fait, et ça a été très bien. Oui, alors, il faut quand même redire ce que représente Vivaldi, hein, et ce concert qui lui est majoritairement consacré a complètement démenti la fameuse boutade pleine de mauvaise foi de Stravinsky qui disait que c'est un auteur non pas de 500 concertos mais de 500 fois le même concerto. Eh bien pas du tout, c'est extrêmement varié, c'est très divers, c'est très vivant. Et d'ailleurs, Amandine Beyer a eu le bon symbole. Elle a dit en début du concert que pour elle, le prêtre roux, donc le compositeur vénitien, était un magicien. Et c'est vrai qu'il y a de la magie dans l'ensemble des concertos qu'elle a joué avec son ensemble, qu'elle a contribué à créer d'ailleurs. Hein, donc c'est un jeune ensemble encore, mais très vivant, très dynamique, très varié, avec des sonorités vraiment formidable, très belle, très riche et avec une espèce d'énergie lumineuse qui émane de ses interprétations. Le concert a débuté avec un concerto pour violon seul, hein, concerto en do majeur, très vivant, très, très animé. Et puis surtout après, il y a eu le concerto qui a donné le titre à ce concert. Le titre, c'était la musique à l'envers. Hein, et en fait, c'est un concerto pour violon et violoncelle en fa majeur qui a un sous-titre, Il Proteo, ossia Il Mondo, à rovescio.
Mais c'est le monde à l'envers.
C'est le monde à l'envers.
Il Mondo, voilà. Al rovescio.
Voilà. Et alors, c'est une pièce hallucinante, avec une virtuosité déployée par le violoncelle en particulier. Avec le violon, on a l'habitude, mais le violoncelle, faire au violoncelle des pirouettes pareilles, c'est incroyable. Donc il faut féliciter vraiment le violoncelliste qui a donné ce haut niveau de technique, pas que de technique, mais de musicalité à ce double concerto. Donc, et ce violoncelliste, il faut le nommer, c'est Marco Ceccato. Vraiment un grand musicien. Et puis il y a eu donc un concerto d'Albinoni, concerto a cinque, con oboe, c'est-à-dire avec un hautbois. Et là, on a découvert ce hautbois formidable,
ah oui, oui,
magnifique, avec une sonorité lumineuse, d'une beauté incroyable, qui s'appelle Neven le Sage, dont il faut retenir le nom. C'était magnifique. Je rappelle que tout l'ensemble, y compris les solistes, joue sur instruments anciens, évidemment. Et donc c'est un hautbois baroque, hein, qu'il pratiquait, mais avec une aisance
qui n'est pas un instrument
incroyable.
Facile, en plus.
Ah oui, oui. Et alors, vraiment, c'est ce dialogue entre le violon et le hautbois qui était d'une virtuosissime extraordinaire. Donc vraiment très, très bien. Un grand moment. Ensuite, donc, il y a eu donc ce concerto d'Albinoni, donc dont je viens de parler, et puis encore quatre concertos. Alors pour violon et hautbois à l'unisson, pour violon de nouveau en mi mineur, et puis le concert s'est achevé avec un triple concerto en quelque sorte, concerto pour violon, hautbois et orgue. Voilà qui est intéressant. L'organiste Anna Fontana était en même temps la claveciniste du continuo pendant tout le concert. Hein. Et là aussi, vraiment très brillant, très beau, avec une cohésion qui ne faiblit jamais.
Et tout un bel ensemble. Ouais,
tout en laissant à chaque voix sa spécificité. Ouais. Il y avait à la fois cohésion et relief, en quelque sorte. Et donc, vraiment, bravo à tous. Le succès a été tel que l'ensemble a joué un bis, mais un bis apaisé, en fait, encore de Vivaldi, évidemment, et donc qui a vraiment pacifié un peu l'enthousiasme du public. C'était une belle soirée, à la fois donc fraîche par la température, mais tellement chaleureuse par l'élan musical.
C'était plein, le concert était magnifique. Alors, ah oui. Le hautbois en vedette, c'est rare que le hautbois soit autant en vedette dans un concert. Et puis cet ensemble Glinconiti qui existe tout de même depuis 2006. Hein. C'est
un ensemble qui
est jeune par certains de ses musiciens, parce qu'il y a beaucoup de jeunes musiciens.
Oui,
mais
oui.
Ce ne sont pas que des Italiens, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Non.
Parce que Glinconiti, on l'avait dit, ce sont les inconnus en italien.
Les inconnus, voilà.
Mais il y avait un Russe, le Théorbis. C'était un anglo-saxon, je ne sais pas si c'était un américain ou un anglais. Donc,
excellent théorbiste
d'ailleurs. Très très bon. Tout ça sont des jeunes musiciens et vraiment l'ensemble était remarquable. Mmh. Et pour vous en donner une idée aussi de ce beau programme dédié à Antonio Vivaldi, interprété par Amandine Beyer et l'ensemble Glinconiti mardi dernier à l'église Saint-Jérôme. Voici un extrait de ce concerto Le Monde à l'envers, Il Mondo al Rovescio. Nous écoutons le troisième mouvement, Allegro. Thank you. le troisième mouvement Allegro du concerto en fa majeur RV 572 Il Mondo al Rovescio d'Antonio Vivaldi, interprété par la violoniste Amandine Beyer et l'ensemble Gliinconiti. Prochain concert de la saison des Arts Renaissance, ce sera le mardi 10 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines avec le duo Thibaut Garcia-Félicien Brut, la guitare et l'accordéon, pour un programme intitulé Vol de nuit. Les concerts sur lesquels nous allons revenir maintenant ont eu lieu à la Halle au Grain. Jeudi, c'est l'orchestre philharmonique de Radio France qui s'y produisait, sous la direction de son ex-directeur musical, le sud-coréen Myung Woon Chung, et il n'y avait qu'une œuvre au programme de la soirée, Serge, la 9e et dernière symphonie de Gustav Mahler.
Et oui, l'une de ces symphonies dont on dit qu'elle appartient à la malédiction des 9e, hein, après la 9e de Beethoven, la 9e de Schubert, toutes des dernières symphonies.
On ne sait pas si c'est la malédiction de la 9e ou de la 10e. Mais
bon. Oui, mais en tout cas, la plupart des compositeurs qui ont suivi ne sont pas allés au-delà de la 9e. Et c'est le cas de Mahler, qui a quand même commencé la 10e, oui. qui a terminé le premier mouvement, mais qui n'est pas allé au-delà. Donc, c'est une symphonie qui est que la mort imprègne, en quelque sorte.
Hein. C'est la symphonie d'un homme malade et malheureux.
Voilà, malheureux pour plusieurs raisons. Il était évincé de la direction de l'Opéra de Vienne. Il vient de perdre sa fille Maria, qui avait 4 ans, et on vient de découvrir un état physique très, très dégradé, avec des problèmes cardiaques qui finiront par l'emporter, peu de temps après d'ailleurs. Hein. Et puis la création de cette œuvre, elle s'est faite après la mort de Mahler.
C'est Bruno Walter. Il ne l'a pas entendu avant de mourir.
Ouais, il ne l'a pas entendu en concert. Donc c'est vraiment une symphonie à la fois tragique et paisible. C'est très étrange. En plus, avec une structure tout à fait exceptionnelle par rapport aux symphonies de l'époque, puisque deux mouvements lents encadrent les deux mouvements rapides. C'est l'opposé de la forme traditionnelle. Oui. Alors Myung Woon Chung, qui est maintenant devenu le directeur musical honoraire de l'orchestre, de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, la dirige de manière très personnelle. Ainsi, l'Andante Commodo, qui ouvre ce voyage, c'est le plus long des mouvements. À la fois, ça s'ouvre sur ces notes de la harpe, très bizarres, très étranges, et on a l'impression d'un panache funèbre. Et puis ensuite, il y a ces violents sursauts. Eh bien, ce mouvement, vraiment, il le dirige comme si ce mouvement était écartelé un peu entre résignation et révolte. Et il soutient le côté tragique, plus que d'autres directions. Donc vraiment, c'était très touchant et très, très émouvant. Et avec une tension qui apparaît dès les premières notes et qui ne se résout qu'aux dernières notes vers le silence de la fin de la symphonie. Alors, la tragédie qui s'ouvre donc dans cette symphonie, eh bien, il lui donne un aspect presque rugueux dans l'orchestre. Et ça n'est pas du velours, hein. C'est vraiment très dense, très intense. Ensuite, eh bien, toujours dans ce mouvement, il y a cet incroyable duo entre le corps solo et la flûte solo. Et là, il faut remercier les deux solistes, en particulier le corps, qui tout au long de la symphonie a des solos stratégiques, on pourrait dire, hein, et donc que le corniste a joué de manière extraordinaire. Alors, la trompette aussi n'est pas en reste, hein, avec une virtuosité très subtile, pas exubérante, mais magnifique. Puis alors, les deux mouvements du centre, le scherzo d'abord, alors c'est dans le tempo d'un Ländler confortable, dit Mahler, hein, c'est ce qu'il suggère sur la manière de le jouer, mais qui est tout empreint d'une sorte d'humour grinçant, sous la direction de Myung Woon Chung, et c'est très justifié. Le troisième mouvement, qui est un rondo burlesque, alors là, ça rassemble des éléments disparates, et là, l'exécution, là aussi, a été incroyable, avec le final de ce mouvement, qui est une véritable frénésie qui est demandée par le chef, hein, c'était impressionnant. Et puis enfin, le final, l'adagio final, alors là, qui est une sorte de lente marche vers le néant, vers le silence absolu. Alors ça, c'est terrible, hein, ça vous prend aux tripes, hein, complètement. Et surtout que ça s'achève vraiment dans le silence absolu. Et le public prolonge ce silence de manière incroyable. Ça a duré des secondes et des secondes, peut-être 20 secondes de silence absolu après la fin du mouvement. Alors, évidemment, à la suite, c'est une acclamation qui a été donnée par le public, hein, et donc Myung Woon Chung, d'ailleurs, on peut le remarquer, il n'a pas cessé de féliciter tous les pupitres les uns après les autres, en les faisant lever, en se déplaçant au sein de l'orchestre pour aller les remercier. Il y a vraiment entre eux une grande
complicité, un lien très fort. Et respect, sans doute.
Oui, et puis,
affection
lien,
aussi.
Affectif,
on peut imaginer, il a été tout de même 15 ans directeur musical
ce qui est énorme,
de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Nguyen Wun-chung. Et puis, bon, c'est un grand musicien, on l'a rappelé
pianiste,
la semaine dernière.
Un grand pianiste. Oui, absolument. Il était pianiste au début, d'ailleurs, d'abord.
J'avais diffusé la semaine passée un extrait du premier mouvement de la symphonie numéro 9 de Gustav Mahler. Je vous propose aujourd'hui de vous faire entendre son quatrième et dernier mouvement, Adagio, très beau lui aussi. Il s'agit d'une version de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, mais dirigée par Hartmut Henschen. Le début du quatrième mouvement Adagio de la symphonie numéro 9 de Gustav Mahler, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, placé ici sous la direction d'Hartmut Henschen. Le prochain concert de la saison des grands interprètes est prévu ce mardi 13 décembre à la Halograin, c'est à 20h, et c'est un récital de Katia Bugnati-Juilly sur lequel nous reviendrons la semaine prochaine. Vendredi dernier, le lendemain du concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, la Halograin accueillait l'Orchestre National du Capitole et deux musicien invité, le chef helvéto vénézuélien Domingo Indoyan et le violoncelliste hongrois István Várdai. Pour le premier, il s'agissait d'une première à la tête de l'ensemble symphonique toulousain. En revanche, le second s'était déjà produit au même endroit, aux côtés de notre orchestre. Il y avait deux œuvres au menu de la soirée, Serge.
Oui, deux œuvres fortes et denses et intenses. D'une part, le deuxième concerto pour violoncelle et orchestre de Dvorak, et puis la troisième symphonie, dite héroïque, de Beethoven. Ça fait deux grands morceaux. Hein. Et donc, nous recevions effectivement pour la troisième fois István Várdai, puisqu'il était déjà présent à Toulouse en 2019 et en 2020, où il jouait un concerto de Saint-Saëns et les variations sur un thème rococo de Tchaïkovski. Donc, c'est quelqu'un que l'on connaît bien et que l'on aime beaucoup. C'est vraiment un violoncelliste artiste, très fin, très raffiné. Alors, c'est un peu le problème de cette première œuvre, le concerto de Dvorak, qui est une œuvre héroïque déjà, en prémonition en quelque sorte. Et donc, c'est une œuvre très chargée à l'orchestre. Et il se trouve que le chef Domingo Hindoyan a un peu poussé sur l'intensité sonore de l'orchestre. Il a en quelque sorte réalisé un lever de rideau tellement héroïque que l'introduction, l'entrée du violoncelle est presque discrète. Mais je crois qu'il a un peu oublié que le violoncelle n'est quand même pas un instrument très sonore. Hein. Donc, c'est un peu dommage. Dans les tutti intenses, eh bien, le jeu du violoncelle est noyé dans un déferlement. Alors certes, bien mené, grandiose, mais vraiment trop dominateur. Le deuxième mouvement calme un peu les ardeurs sonores de l'orchestre, évidemment. Et là, on a pu admirer la belle cadence dans ce mouvement joué par István Bárdai, qui est vraiment un grand violoncelliste. Et puis le final, là aussi, alors l'intensité sonore reprend de la vigueur, avec notamment une insistance apparemment du chef sur les sections des vents, qui retrouvent encore une vigueur par instant un peu envahissante. Mais bon, on peut quand même admirer un beau duo entre le violoncelle et le premier violon, hein, c'est un des moments importants de ce concerto, où on a pu de nouveau constater la beauté du jeu de Christy Jesse, le premier violon super soliste de l'orchestre. Alors il y a eu un grand succès de cette exécution, et donc István Bárdai est revenu pour jouer. Alors une œuvre qui n'est pas très courante comme bis, très souvent on entend des extraits des suites de Bach, ouais, hein, ou de Britten même,
classique, ça, oui.
À la rigueur, mais là il s'agissait de l'étude du violoncelliste originaire de Bohême, David Popper, compositeur et musicien.
Né en 1843, mort en 1913.
C'est une pièce dont l'atmosphère rappelle un peu Dvorak et le Mitteleuropa, le style Mitteleuropa. Donc, très bien. Et puis ensuite, il y a eu la troisième symphonie, héroïque. Alors, on connaît la genèse de cette œuvre, hein, puisque la dédicace initiale à Napoléon Bonaparte, à l'époque, eh bien, a été rayé avec rage et colère sur le manuscrit de Beethoven lorsqu'il a appris qu'il s'était fait couronner empereur. Ça, il ne l'a pas supporté, Beethoven. Et donc, la symphonie est dédiée à la mémoire d'un grand homme. Alors, l'allegro initial a été pris par le chef dans un tempo vif, nerveux, presque rageur. J'ai eu l'impression que le chef voulait illustrer la colère de Beethoven
On peut l'imaginer, oui. Ouais.
Lorsqu'il a appris ce dévoiement des idéaux de la Révolution auxquels Napoléon a procédé. Et dans toute la symphonie, d'ailleurs, c'est très particulier. Il a dirigé de manière très personnelle, on peut dire, hein, en privilégiant le staccato sur le legato. Il y a très peu de legato, mais surtout du staccato. Alors, bon, la marche funèbre en particulier, bah, elle manque un peu de compassion, en quelque sorte, hein, on peut dire. Avec aussi une insistance, là encore, sur les registres aigus, en particulier sur les trompettes, qui rutilent, évidemment. Mais enfin, bon, c'est peut-être pas le moment, là. Alors, sa démarche est tout à fait cohérente, évidemment, hein, elle est indiscutablement cohérente, parce qu'on a l'impression qu'il rattache l'œuvre à Joseph Haydn plus qu'à ce qui va venir, alors qu'elle représente quand même peut-être la première grande œuvre symphonique du romantisme. Oui. Un peu étonnant, donc, mais bon, avec de grands moments, et l'orchestre s'en est magnifiquement tiré, avec notamment le pupitre de cor, qui est un gros travail dans cette symphonie.
Et qui est très bon, le sait notre pupitre de corps de l'Orchestre National du Capitole. Et puis c'est héroïque, ils la connaissent bien parce qu'ils l'ont joué à plusieurs reprises ces dernières années. Mais on va écouter plutôt István Bárdai et je vous propose de vous faire découvrir le bis qu'il a joué vendredi à la Halle aux Grains, l'étude pour violoncelle numéro 4 de son compatriote David Popper. Thank you.
István Várdai interprétait l'étude numéro 4 de David Popper. Alors, ce n'est pas son compatriote, puisque le premier est hongrois et le second est tchèque. Mais c'est donc le bis qu'il a donné vendredi dernier à la Halle au Grain. Et c'est le morceau avec lequel nous concluons cette première partie d'émission. Petite virgule musicale avant de retrouver dans quelques secondes Robert Pénavert et Serge Chosy pour la partie agenda de ce numéro. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Suite de Mélomanie, notre partie agenda, toujours en compagnie de Robert Pénavert et Serge Chosy, mes deux invités du jour. Nous allons rester à la Halle au Grain et avec l'Orchestre National du Capitole, puisque le concert suivant de la Phalange toulousaine est programmé le vendredi 15 décembre à 20h. Il y a de nouveau un chef et un soliste invité. Le chef, c'est le Finlandais d'origine russe Dima Slobodeniuk, et le soliste, c'est le pianiste russo-lituanien Lukas Geniusas. Et là, pour cette soirée, trois œuvres vont être jouées, Serge.
Oui, trois œuvres très, très différentes, hein, vraiment très différentes, avec tout d'abord une pièce de Thomas Hades, compositeur d'aujourd'hui, d'ailleurs un jeune quinquagénaire.
Né en 1971,
britannique, hein, qui s'appelle Three Piece Suite from Powder Her Face. Et je vais y revenir. Puis un concerto, le troisième concerto pour piano orchestre Rachmaninov, et la version originale, la version du ballet, L'Oiseau de Feu de Stravinsky. Donc voilà, trois grandes œuvres avec une découverte pour la plupart des gens, moi-même y compris, pour l'œuvre de Thomas Hades. Alors c'est une suite qui est tirée d'un opéra de chambre de Thomas Hades, donc, qui s'appelle Powder Her Face, c'est-à-dire elle poudre sa face,
oui,
son visage.
Poudre le visage, oui.
Poudre le visage, voilà. Ça, c'est assez particulier. On va découvrir. Hein, ces trois mouvements datent de 2007. Et donc, ils sont dérivés de l'opéra qui, lui, est plus ancien, date de 1995. Donc, on verra bien. Thomas Hades, c'est un compositeur original, hein, britannique.
Oui, important.
Très fort. Oui, oui, absolument.
Composition contemporaine britannique.
Oui, oui. Et puis, nous entendrons donc le troisième concerto de Rachmaninov avec ce pianiste, Lukas Geniusas, qui est né en 1990 à Moscou.
Au sein mère russe et père lituanien.
Voilà. Et au sein d'une famille de pianistes. Ils sont tous pianistes. Oui. Dans sa famille. Donc, il a obtenu de très grands prix. Hein. Deuxième prix au concours international Frédéric Chopin de Varsovie, ce qui est une référence. Bon, ben, on va découvrir. Donc, je pense qu'il vient pour la première fois à Toulouse.
Oui, moi, je n'ai jamais entendu son nom.
Et donc,
à Toulouse.
On sera tout heureux d'entendre son interprétation du troisième concerto de Rachmaninov.
Il n'est pas le plus joué, hein, puisqu'on entend plus souvent le premier et le deuxième.
Ah, c'est surtout le deuxième qui est donné.
Surtout le deuxième, bien sûr.
Puis qui a illustré pas mal de musique de film, d'ailleurs, deuxième concerto. Donc voilà, on écoutera ce troisième concerto. Et puis ensuite, c'est magnifique d'entendre enfin la version original du ballet L'Oiseau de Feu de Stravinsky, qui est rarement donné finalement, on donne souvent la suite, hein, plus réduite. Là, on aura vraiment la musique du ballet, et donc c'est vraiment un concert qui devrait attirer le grand public.
Le programme est original, les musiciens aussi d'une certaine manière, parce qu'on ne les a jamais entendus, enfin, en ce qui concerne Dima Slobodeniuk, qu'on va plutôt le voir que l'entendre, mais Lukas Geniusas, même à piano jacobin, moi je ne crois pas qu'il se soit déjà produit. Et Slobodeniuk, comme je l'ai dit, alors, il est né à Moscou, en 75, aussi chef relativement jeune encore, mais formé en Finlande.
Formé en Finlande et pas par n'importe qui, puisqu'il a pris des cours avec Leif Segerstam et puis le fameux Jorma Panula.
Voilà, dont on parle à chaque fois, dès qu'on cite un chef finlandais de la nouvelle génération,
on sait
qu'il est derrière.
Hein. Ah oui, Panula, et qui, à un âge très avancé, continue à professer la direction d'orchestre.
Le sorcier de la baguette d'Helsinki.
Exactement. Exactement.
Et donc, on attend ça, évidemment, avec impatience, ce concert. Alors, comme je l'ai indiqué, non, je ne l'ai pas indiqué, mais j'aurais dû, L'Oiseau de Feu a quand même été souvent donné. Mais c'était la suite, hein, par l'Orchestre national du Capitole.
Oui.
Donc, j'ai un extrait à vous proposer, sous la direction de Tugan Sokiev. Il est interprété, bien sûr, par l'Orchestre national du Capitole. Thank you. Extrait de L'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky dans une version de l'Orchestre National du Capitole dirigé par Tougan Sokiev. Jeudi, c'est Dima Slobodeniuk qui dirige l'ensemble symphonique toulousain. Et outre L'Oiseau de Feu, il y aura donc au programme la suite Three Pieces from Powder of Face de Thomas Hadès et le concerto pour piano numéro 3 de Rachmaninov avec le pianiste russo-lituanien Lukas Geniusias. Voilà donc pour le programme de ce concert. Et puis le vendredi 16 décembre à 21h au Centre culturel Henri Desbal, l'Orchestre de chambre de Toulouse donne un concert intitulé De Purcell à Queen. Et Queen, c'est le célèbre groupe de pop-rock des années 70-80. Là, Serge, on peut parler sans hésiter d'un joyeux mélange des genres qui va donc de la musique baroque à la musique pop, avec tout de même un trait d'union. Il s'agit toujours de compositeurs et musiciens de nationalité anglaise.
Oui, pas tout à fait, puisque Handel était...
Oui, mais enfin, il était naturalisé, donc il avait la nationalité anglaise.
C'était le plus allemand des compositeurs anglais ou le plus anglais des compositeurs allemands. Donc, il y aura 4 stades dans ce concert. D'abord, une chaconne d'Henry Purcell, donc, alors là, le compositeur baroque, vraiment, même pré-baroque. Et puis, de Georg Friedrich Handel, le concerto grosso opus 6 numéro 4, qui est de l'une de ses grandes œuvres de concerto grosso, il en a écrit pas mal. Et puis une œuvre de Benjamin Britten, et là on arrive au XXe siècle, hein, avec sa Simple Symphony. Alors, je voudrais rappeler un petit souvenir personnel. J'ai eu la chance de voir Louis Royacombe lorsqu'il dirigeait l'orchestre qu'il a créé, l'orchestre de chambre de Toulouse, donc, et l'un de ses bis favoris, c'était le mouvement pizzicato de la Simple Symphony,
oui,
qui sera donné là intégralement, évidemment, par l'orchestre de chambre. Et donc, c'est peut-être un petit clin d'œil au créateur de l'orchestre de chambre de Toulouse. Et puis enfin, nous aurons droit à un petit florilège de pop anglaise avec non seulement Queen, mais les Beatles aussi. Donc vraiment, alors là, on est plein 20e siècle. Intéressant comme idée, en tout cas, de glorifier la production musicale anglaise depuis les prémices de la musique baroque jusqu'au XXe siècle.
Et puis c'est un programme et un concert à dimension pédagogique, comme souvent lorsqu'il s'agit de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Pour avoir un aperçu de ce programme de musique anglaise à travers les siècles, voici un extrait, vous en parliez Serge Chosy, un extrait de la Simple Symphony de Benjamin Britten, interprété par l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Thank you. La Simple Symphony de Benjamin Britten, interprétée par l'Orchestre de Chambre de Toulouse, qui est donc en concert vendredi 16 décembre à 21h au Centre culturel Henri Desbal de Toulouse, avec un programme intitulé « De Purcell à Queen ». Les places sont à réserver et acheter en ligne sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. C'est la fin de ce 211e numéro de Mélomanie. Un grand merci à mes amis Serge Chosy et Robert Pénavert de l'avoir co-animé avec moi. Je rappelle que l'Orchestre National du Capitole est en concert à la Halle aux Grains ce jeudi 15 décembre à 20h. Une soirée où le chef finlandais Dimas Slobodeniuk va le diriger, notamment pour accompagner le pianiste russo-lituanien Lukas Geniusias lors de l'exécution du concerto numéro 3 de Rachmaninov. Au programme également, Three Piece Suite from Parlor of Faith de Thomas Hades et L'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky en version ballet. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Et je signale enfin le concert de Noël de la Maîtrise de Toulouse avec l'organiste Michel Bouvard à la Basilique Saint-Sernin vendredi 16 décembre à 20h. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles et vous pouvez vous renseigner au préalable sur le site www.maîtrisedetoulouse.fr. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence comme d'habitude. Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci de nous être toujours fidèles et très bonne semaine musicale à tous.